Mark Twain. L'homme le plus méchant et le plus stupide de Turquie. Il y a quelques années de cela, le drogman de la légation américaine à Constantinople fut appelé à servir d'arbitre dans une contestation entre un étranger et un ancien turc, docteur en droit et en météorologie. Après plusieurs tentatives de conciliation, le drogman conclut que le docteur était un individu méchant et rébarbatif. Ce dernier avait précédemment exercé les fonctions de cadi au tribunal civil de Smyrne. Le drogman lui conta une histoire pour son instruction. Le fait se passe dans le vieux Istanbul, ou peu importe l'époque, et la morale qui en découle peut s'appliquer à n'importe quelle région et à n'importe quel temps. Nous dirons que l'histoire remonte à la fin du XVIe siècle, époque à laquelle l'Empire turc était florissant et en pleine prospérité. Sous le règne d'Amurat III, sixième empereur ottoman, petit-fils de Soliman le Magnifique. Comme cette histoire le prouvera, ce sultan n'était pas le plus médiocre des empereurs ottomans. Grand, l'air viril, plutôt gros de constitution, très pâle de figure, il portait une longue barbe effilée. Il n'avait pas l'air aussi féroce que les autres sultans. Beaucoup moins débauché et pas du tout viveur. Il châtiait les ivrognes et s'accordait à peine chaque jour un petit arrêt verre d'absinthe. Son peuple savait qu'il aimait la justice. On le considérait comme un bon prince, bien qu'il ait fait étrangler ses frères. L'histoire ajoute que la vue de leurs cadavres, il ne put retenir ses larmes, car il ne se complaisait pas dans ces actes de cruauté barbare exigés par la forme et le bon ordre de son gouvernement. Mais revenons à notre histoire de drogman. Elle fut ainsi racontée à la légation l'été dernier, pendant une sieste de doufarniente. Il y avait un homme nommé Mustapha qui vivait près de la Porte d'Or. Il était très vieux, très riche, et sur le point de mourir, il fit venir son fils et lui tint le langage suivant. « Mon cher enfant, je vais mourir. Avant de vous quitter, je vais vous indiquer mes dernières volontés. Voici 100 livres, vous les donnerez à l'homme le plus méchant que vous rencontrerez. Voici 100 autres livres, et vous les donnerez à l'homme le plus stupide que vous découvrirez. » Quelques jours après, le père mourut. Son fils se mit en quête du méchant homme. On lui en indiqua plusieurs, mais ils ne lui parurent point assez méchants. De guerre lasse, il leva un cheval et se rendit à Yougat, en Asie mineure. Là, tous les habitants, à l'unanimité, lui désignèrent leur cadi comme l'homme le plus exécrable du monde. Cette révélation donna entière satisfaction au jeune homme. Il se rendit chez le cadi, lui raconta l'histoire du testament de son père et ajouta « Comme je tiens à accomplir la volonté de mon père, je vous prie d'accepter ces 100 livres. » « Mais, objecta le cadi, comment savez-vous que je suis si méchant ?»« Le témoignage de toute la ville me l'indique, » répondit le fils. « Notez bien, jeune homme, reprit le cadi, qu'il est contraire à mes principes d'accepter le moindre présent. Si je reçois de l'argent, c'est un point de vue tout spécial. J'accepterai votre offre que si je puis vous donner l'équivalent de votre argent. » Cette réponse du cadi paraissait juste. Elle embarrassa le jeune homme. Cependant, comme il désirait avant tout accomplir la volonté de son père, il insista auprès du cadi. Monsieur le juge, reprit-il, si vous me vendiez quelque chose, la volonté de mon père s'en serait pas moins respectée, il me semble. Ceci demande réflexion, reprit le cadi, en regardant tout autour de lui comme il cherchait quelque objet qu'il pouvait rendre à ce jeune homme en respectant la volonté du testament. Il réfléchit longtemps. Soudain, une idée lumineuse jaillit de son esprit. Apercevant deux pieds de neige dans la cour devant sa maison, il dit au jeune homme « Je vais vous vendre de la neige, cette neige que vous voyez là. Acceptez-vous le marché ?»« Oui, répondit l'autre, comprenant que la neige ne représentait rien de précieux. » Le cadi établit un acte régulier, dont les frais furent payés naturellement par l'acquéreur, en plus des 100 livres représentant le prix de la neige. Le jeune homme retourna chez lui, se demandant un peu soucieux s'il avait strictement accompli la volonté de son père. Car, après tout, le cadi ne lui semblait pas si méchant. N'avait-il pas en effet refusé énergiquement d'accepter l'argent sans un échange de bon aloi? Sa perplexité fut de courte durée. Le second jour, de bon matin, le secrétaire du cadi vint trouver le jeune homme pour lui dire que son maître désirait le voir. « Soit, j'irai le trouver, » répondit le jeune homme. « Non, non, » dit le secrétaire, « j'ai l'ordre de vous ramener avec moi. » Le jeune homme résista, mais le secrétaire insista. Ce dernier l'emporta enfin, et tous deux se mirent en route. « Que me voulez-vous, Cadi Effendi ?» demanda le jeune homme. « Soyez le bienvenu, » répondit le cadi. « Je vous ai prié de venir parce que votre neige me gêne beaucoup dans ma cour. Les autorités ne veulent plus en supporter la responsabilité. C'est un dépôt dangereux. On ne peut pas le mettre en sûreté comme un autre objet de valeur. » De plus, elle encombre la route sur laquelle chacun a le droit de reparser. Que s'en suit-il? Votre neige sera piétinée ou volée, ou bien elle fondra et toute la responsabilité en pèsera sur moi. C'est ce que je veux éviter. Aussi, je vous prie d'enlever votre neige. Mais, Cadi Effendi, répliqua le jeune homme, qu'à cela ne tienne, laissez-la fondre. « Laissez-la voler ou piétiner, je vous en réclamerai pas la moindre valeur. »« Pas le moins du monde, » dit le cadi. « Vous n'avez pas le droit d'obstruer ainsi la voie publique. Faites-moi donc le plaisir d'enlever votre neige ou je me verrai dans l'obligation de vous mettre en prison et de vous rendre responsable du gaspillage d'une propriété que vous héritiez pour en revendiquer un jour ou l'autre. » « Faites-la balayer, » reprit le jeune homme. « J'en supporterai les frais. »« Et par exemple, » répondit le cadi indigné, « me prenez-vous pour votre domestique ? Vous n'avez pas l'air de vous douter que ce balayage coûterait encore fort cher. »« Mais j'en paierai la dépense, quelle que soit elle soit, » répéta le jeune homme. « Eh bien, elle se vendra 20 livres, » dit le cadi. « Je les paierai, » répondit le jeune homme. C'est ainsi que le cadi extorqua 20 livres supplémentaires au fils du défunt. Pourtant, le jeune homme se déclara satisfait. Il fut enchanté de trouver en la personne de ce cadi un homme dont la bassesse de caractère lui permettait d'accomplir la volonté de son père. Après cette expérience, le jeune homme se mit à la recherche de l'homme stupide pour accomplir la deuxième clause du testament de son père. Cette fois, il limita ses recherches à la cité de Stamboul qu'il habitait. Il montait la rue qui mène à la sublime porte lorsqu'il entendit résonner l'écho d'un brillant orchestre. Il se dirigea du côté de la musique et, arrivé à une petite distance, il aperçut une grande procession avec un déploiement de soldats. Un homme très âgé, revêtu d'un magnifique uniforme, montait un cheval arabe dont la robe était d'une blancheur immaculée. Une quantité de décorations de toutes tailles et de toutes couleurs couvrait la poitrine de ce vieillard. Le harnachement du cheval était constellé de broderies d'or. Une douzaine de hauts fonctionnaires du gouvernement d'Amrut III entouraient le vieillard. Eux aussi portaient des vêtements magnifiques. Ils étaient revenus récemment du Caucase avec un chargement de richesses et ils profitaient de cette occasion aujourd'hui pour exhiber leurs longues robes et leurs bijoux. Ils portaient tous des uniformes merveilleusement brodés et montaient des chevaux superbes. Une immense multitude les suivait. Tous les habitants de Galata et de Stamboul s'étaient réunis pour jouir de ce spectacle. Un murmure de peut-être 60 dialectes s'élevait de cette foule bigarrée. Le fils de Mustapha se mit à suivre la procession. Il demanda à un piéton coiffé d'un turban vert qui était assis sur une fontaine et ce que signifiait cette procession. L'autre lui apprit que le vieillard était le nouveau grand vizir d'Azurat. Ce vizir venait d'être nommé et il allait prendre possession de son poste. Suivant la solennité d'usage, on escortait toujours ainsi les grands vizirs. Lorsque la procession arriva à la sublime porte, le grand vizir descendit du cheval sur le seuil de la porte. Là, chose étrange à dire, se trouvait un grand plateau, et sur ce plateau une tête humaine fraîchement décapitée. Cette vue, bien faite pour donner la chair de poule, frappa d'horreur le jeune homme, qui, recouvrant peu à peu ses sens, demanda ce que signifiait cet usage. On lui apprit que la tête, sanglante, était celle du précédent grand vizir, qui avait été décapité pour expier un méfait. La tête de son successeur figurera-t-elle aussi un jour sur le plateau ? Demanda le jeune homme. Un soldat qui maintenait l'ordre de la procession. « Oh, de nos jours, il est difficile d'y échapper !» répondit le soldat. Après cela, le jeune homme posa immédiatement d'autres questions. Il se mit à la recherche du kiarajan du nouveau grand vizir, car tout grand vizir a un factotum. Et il trouva le kiarajan et le pria de remettre au grand vizir les 100 livres léguées par son père. Le Kiraja, après avoir fait décliner au jeune homme ses noms et qualités, reçut l'argent et le remit plus tard au grand vizir. Ce grand fonctionnaire n'en croyait pas ses yeux. « Quel ami, demanda-t-il, peut bien me laisser cet argent et pourquoi cela ? » Il fit ensuite appeler le jeune homme et le questionna sur son père. Le fils répondit « Mon père s'appelait Mustapha. Il habitait près de la Porte d'Or, mais vous ne le connaissiez pas, maître. » « Et lui, me connaissait-il ? » ?»« Non, seigneur, répondit le jeune homme. » « Mais alors pourquoi ce lègue en ma faveur ?» Et le fils raconta l'histoire au grand vizir et lui avoua qu'il ne lui paraissait pas possible de trouver un homme plus stupide et plus idiot que lui. Voilà pourquoi les 100 livres légués par son père devaient revenir à ce haut fonctionnaire. Cette révélation stupéfia le grand vizir, qui demanda « Mais comment savez-vous que je suis si stupide ? Ni vous ni votre père ne me connaissiez. Mais votre acceptation du poste de grand vizir, en présence de la tête décapitée de votre prédécesseur, en dit assez long. Inutile de fournir de nombreuses explications. » À ces mots, le grand vizir resta quoi ? Ne trouvant pas de réponse plausible, il saisit sa barbe à pleine main, la tira et réfléchit quelques instants. Et s'adressant au jeune homme, il lui dit « Fils du grand et sage Mustapha, faites-moi le plaisir d'accepter d'être mon hôte ce soir. Demain matin, j'aurai un petit entretien avec vous. » Le jeune homme accepta l'invitation. Le lendemain, le grand vizir lui fit demander et lui apprit qu'il allait se rendre au palais d'Amrat à la pointe de Saranio. Il pria le jeune homme de l'accompagner. Celui-ci essaya de refuser, mais en vain, car le grand vizir l'entraîna avec lui. Arrivé au palais, le grand vizir va droit au chef des eunuques et s'adressant à ce superbe arabe, « Votre grandeur, dit-il, je sais que Sa Majesté, en me confiant le poste très recherché de grand vizir, m'a fait le plus grand honneur du monde. Je lui voue une profonde reconnaissance pour cette rare distinction. Cependant, Excellence, ce jeune homme que vous voyez est venu me trouver aujourd'hui. Il m'a tenu un langage tel que je suis décidé à donner ma démission. Je me sens incapable de servir Sa Majesté avec le dévouement qu'elle mérite. » Le duc resta pétrifié. C'était la première fois qu'un grand vizir osait parler de démission. L'acte du grand vizir parut si étrange à l'eunuque que celui-ci se rendit immédiatement chez le sultan pour lui faire son rapport. Le sultan fut aussi stupéfait qu'indigné et manda aussitôt le grand vizir avec son jeune acolyte. Quand ils arrivèrent en présence d'Amarat, ils le trouvèrent de plutôt mauvaise humeur. Les janissaires avaient conspiré contre lui. Sa femme, sa sœur et sa mère, sur lesquelles il comptait pour soulager sa santé précaire et sa détresse mentale, avaient en vain essayé de le calmer et d'apaiser sa colère. Son visage pâle devint écarlate de rage. Et s'adressant avec fureur au grand vizir, « Comment se fait-il, coquin, que vous osiez parler de votre démission ?»« Majesté, reprit le grand vizir, je sais parfaitement que je commets un acte téméraire, mais c'est ce jeune garçon. » Et se disant, il montra du doigt le jeune homme, « qui m'y oblige. Si votre majesté désire connaître les raisons impérieuses auxquelles je cède, qu'elle daigne interroger ce jeune homme. Lorsque votre majesté connaîtra ses motifs, elle comprendra que je suis l'homme le plus stupide de son empire et qu'il serait contraire à sa dignité de me conserver plus longtemps comme son représentant immédiat. » Le jeune homme est ensuite appelé. Il raconte son histoire. Le sultan sourit et finit par céder au sentiment de justice inné en lui. Il décrète par un iradé spécial que désormais aucun grand vizir ne serait plus décapité.